Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Michael, you argue with everybody. You got one of the worst reputations in this town, Michael. Nobody will hire you.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous les mecs?
Ça va très bien.
Ça va et toi?
Bah écoute, je vais très bien. Il y a quelques semaines, avant de dormir, j'ai maté un film pour la première fois. J'ai lancé un film, il devait être 1 ou 2 heures du mat, comme ça. Ce film s'appelle Les Randonneurs, je ne l'avais jamais vu dans ma vie. Ah. Je regarde le film, et en fait à la fin du film je me dis, j'aime trop Vincent Elbaz, j'aime trop cet acteur, il est trop bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'inviter dans le podcast, et aujourd'hui il est là, bienvenue Vincent.
Merci, je me suis dit, il dit pas ça parce que je suis là.
Non, on est très content de t'avoir, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
Bonjour,
encore?
Je m'appelle Vincent Elbaz, E-L-B-A-Z. Je suis acteur français. Et je fais du théâtre, enfin j'ai fait un peu de théâtre, du cinéma, et puis je fais de la télé aussi, des séries, voilà.
Très bien. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué les années 80, à savoir Tootsie. Sorti en 1983 et réalisé par Sidney Pollack, Tootsie présente à l'affiche Dustin Hoffman, Jessica Lange, Bill Murray et Terry Garr, entre autres. Ce film raconte l'histoire de Michael Dorsey, comédien new-yorkais ayant du mal à décrocher des contrats et qui, un jour, a l'idée de se travestir dans le but de passer une audition pour un rôle féminin dans un soap, rôle qu'il décroche. Tootsie est l'un des grands succès de l'année 83, plus de 200 millions de dollars au box-office pour un budget initial de 20 millions, en plus d'avoir glané un Oscar et 3 Golden Globes. La prestigieuse American Film Institute classe ce film comme étant la deuxième plus grande comédie américaine de l'histoire, après Certains Lame Show de Billy Wilder et devant Docteur Feu-l'Amour de Stanley Kubrick. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre tout premier souvenir lié à ce film? Dans quel contexte vous l'avez vu pour la première fois? Et je vais commencer avec Vincent.
Alors, je me souviens plus de la première fois où je l'ai vu, mais par contre, je me souviens du nombre de fois où je l'ai vu. Je l'ai vu au moins 30 fois. Donc, j'ai dû le voir en cassette, à mon avis, en cassette VHS, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de chose carrée en plastique qu'on mettait dans une grosse machine pour voir un film.
Est-ce qu'on est tous vieux dans ce podcast?
Je pense que oui. D'accord. Voilà. Je me souviens de l'avoir vu et revu jusqu'à user la cassette.
Parce que, en général.
J'étais fan de Dustin Hoffman.
Ouais.
Entre autres, je suis fan de plein d'acteurs et d'actrices.
Mais t'étais jeune quand tu l'as vu pour la première fois.
Enfin,
t'étais,
ah oui, oui. T'étais un ado. Oui, j'avais 12, 13, 14 ans, je sais pas.
Parce que,
je voulais déjà devenir acteur.
En général, quand il y a un invité dans le podcast, je lui demande de me donner comme ça en DM 4-5 films, des films qu'il adore. Et toi, tu m'avais proposé Il était une fois en Amérique, Les Affranchis, Une belle année de Lelouch.
La bonne année.
La bonne année de Lelouch. Ouais. Et il y avait aussi.
C'est un de mes films préférés. Ouais.
Et il y avait Tootsie et un autre film que j'ai oublié d'ailleurs.
Papy fait de la résistance.
Papy fait de la résistance, il y avait aussi.
Ah oui, oui. Voilà. Immense comédie française.
Et on a choisi Tootsie. Aurélien, ton premier souvenir.
Pourquoi avez-vous choisi Tootsie?
Parce qu'on avait fait Il était une fois en Amérique avec Toledano Nakash. On avait déjà fait Les Affranchis avec Prince Wally, il me semble.
Ouais, tout à fait.
Et moi, Tootsie, je l'avais jamais vu, donc c'était l'occasion en fait.
Ah. Et alors,
je vais donner mon avis. En fait, moi, j'ai vu donc Tootsie pour la première fois hier soir. Figure-toi.
Alors.
En fait, il y a des films comme ça. Que les gens nous conseillent, qu'on sait qu'on doit voir, et puis on les voit pas. Ça m'avait fait ça aussi avec Sideways de Alexander Payne. Tout le monde me disait, il faut que tu vois ce film, c'est génial, etc. Et j'avais mis du temps à le voir.
Ah, j'avais adoré ce film aussi.
Ouais, super bien. Et donc j'ai vu Tootsie hier pour la première fois. Alors déjà, j'ai adoré le début du film. J'ai adoré l'ambiance, toute cette ambiance autour des acteurs qui galèrent à New York dans les années 80 en fait.
Ouais.
Limite j'aurais voulu que le film ce soit ça au début, je trouvais ça trop bien en fait. J'ai été marqué aussi par la bande-son de Dave Grusin que je trouve incroyable.
Ouais, trop bien.
Et hier en regardant le film, je me suis quand même dit, Dave Grusin c'est assez fou parce que John Williams, Hans Zimmer, tous ces compositeurs de génie, on sent quand même une patte. C'est-à-dire que quand on écoute leur composition, on arrive à reconnaître du Zimmer ou du Williams. Sauf que Dave Grusin, quand on écoute ses compositions pour les Goonies, ou alors pour Golden Pound, ou alors pour Tootsie, à chaque fois, c'est des compositions différentes. On aurait du mal à cibler vraiment la patte, ouais, Dave Grusin. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et après, le film, j'ai adoré, sauf que j'ai le sentiment que mon visionnage a été altéré par le fait d'avoir vu en premier Madame Doubtfire. C'est-à-dire que si je n'avais jamais vu Madame Doubtfire, peut-être que j'aurais ressenti le film de façon différente, parce que finalement, Madame Doubtfire, ça a repris tous les grands axes de Tootsie, quoi.
Ouais.
C'est la même chose. C'est-à-dire que...
Même les grosses lunettes.
Ouais, non, mais c'est... Non, mais tout est pareil. Et puis même, il y a ce côté, en étant une femme, je change, je ne suis plus l'homme que j'étais. Il y a tout plein de trucs qu'ils ont piqué à Tootsie, finalement. Et je pensais pas qu'il y avait un tel lien entre Doubtfire et Tootsie, quoi.
Oui, mais il y a quelque chose dans Tootsie, de plus réaliste dans le...
C'est vrai.
Dans se confronter à ce qu'est être une femme pas terrible physiquement. En plus, parce qu'en fait, c'est ça, il se confronte aussi à ça, au fait qu'il se transforme en femme. Et en femme, il est pas terrible, hein, je veux dire. Donc, c'est pas une femme qui est ultra belle et qui se fait ouvrir toutes les portes facilement. Il se retrouve dans cette peau de ces femmes pour qui c'est compliqué, parce qu'à la fois, elles ont ce problème de rapport au pouvoir des hommes, etc., avec ce metteur en scène là, qui la malmène, qui la maltraite un peu. Et puis en même temps, rien n'est facile sur l'autre terrain, parce qu'elles sont pas super physiquement, quoi. Donc il y a un truc comme ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est c'est la phrase du pénétrable ou pas pénétrable. Il y a un truc comme ça. Et puis au-delà de ça, dans Tootsie, il y a aussi, on sent cette adrénaline que ressent un mec quand il se transforme en femme. Parce que ça, il faut pas le nier. Vous êtes déjà déguisé en femme?
Jamais.
De manière réaliste?
Je crois pas. Non.
Non. Ah.
Toi, tu ne
connaissais
fait.
Pas cette sensation. Ben, c'est un shot d'adrénaline.
Alors, tu l'as fait pour quelle occasion?
Je l'ai fait quand j'étais ado, pour aller à une boum déguisée. Et j'avais choisi de me déguiser en fille. Et, sauf que moi, je voulais déjà devenir acteur. Et je me suis déguisé en fille, mais très réaliste, en fait. Pas du tout une parodie, quoi.
Ouais, genre les gros seins qui débordent et
non,
tout.
Non, rien à voir. Et du coup, c'est un shot d'adrénaline. Parce que quand il faut sortir dans la rue pour aller à ton truc... Tu as cette sensation de peur, de vertige et tout, et à un moment donné de prise de pouvoir, quoi, sur toi-même, quoi, et c'est assez extraordinaire, quoi. Et dans Tootsie, il y a ça, il y a ce truc de vertige, quoi. Ce qu'il fait, il le fait pour des raisons vitales, et il y avait aussi le New York, moi, des années 70.
Ah, j'adore.
Voilà, et puis un Dustin Hoffman qui se fond dans n'importe quoi, parce qu'il a un physique assez banal. En fait, somme toute, donc il est capable de jouer n'importe quel rôle, de se fondre dans n'importe quel personnage. Et puis Sidney Pollack, moi j'ai toujours aimé les films de Pollack, il y a un charme.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, quoi.
Et d'ailleurs, t'as raison de pointer ça du doigt, parce qu'en voyant le film hier, je me suis dit, il y a quand même plein de termes qui sont hyper modernes et hyper 2023, en fait. Mais dans tout type,
il est lu de aucune problématique du fait d'être, comme tu disais, une femme pas très belle, etc. Parce qu'il y a même la problématique de la. Donc, sa meuf dans le. Enfin, sa meuf, pas vraiment, mais. Sa pote très proche qui...
Terrigard.
Voilà. Ensuite, il la voit, il lui dit « Ah, en plus, ils ont pris une grosse vache à la place, etc. » Donc, t'as aussi la jalousie entre meufs, entre actrices, etc., qui se tirent la bourre et tout. Franchement, j'ai trouvé ça assez brillant.
C'est assez précurseur sur ça.
Ouais.
Et tu parlais de Dustin Hoffman. Tu parlais de Dustin Hoffman. Bon, évidemment, tout le monde sait que Dustin Hoffman est un grand acteur. Sauf que, souvent, quand on pense aux grands acteurs des années 70-80, les premiers noms qui vont venir en tête, ça va être De Niro, ça va être Robert Redford, comme ça.
Et oui, mais leur grand frère à tous, c'est Dustin Hoffman.
Et voilà,
qui a ouvert les portes.
Et Dustin Hoffman, je trouve que... Alors, on sait que c'est un grand acteur, mais je trouve que on ne se rend pas compte à quel point c'est une légende, mais une véritable légende, en fait, du cinéma. Je trouve qu'il n'est pas assez cité.
Oui, mais parce que lui, il n'a pas fait la rencontre... avec un Scorsese ou un Coppola comme par exemple Pacino ou De Niro et Scorsese, il a pas eu cette osmose avec un immense maître
avec qui soit affilié,
etc. Il a pas eu cette rencontre, lui, ça. Lui, il a fait il a eu tous les grands rôles entre les années 60 et 80 quand même, hein, faut pas charrier, mais voilà, il a pas eu cette rencontre là qu'ont fait Pacino et De Niro, voilà. Mais il a ouvert les portes, lui, hein, pour les générations juste d'après. Hein. Et puis bon, après, au-dessus, t'as Brando, le dieu des acteurs, mais je veux dire, là, c'est l'Olympe. Mais dans le monde des vivants, on va dire, dans le monde des mortels, Dustin Hoffman est précurseur.
Et surtout, il est précurseur je vais dire entre guillemets physiquement, parce qu'il est arrivé à une époque où les grands rôles c'était des Paul Newman, des Robert Redford, et lui ça a été peut-être le premier acteur à arriver comme ça avec un physique qui n'était pas un physique de jeune premier en fait.
Tout à fait.
Aurélien, ton premier souvenir lié à Tootsie ?
Bah, je l'ai vu aussi assez tard, je pense en cassette vidéo, quand il passait à la télé. Mais je me suis justement posé la question en me disant qu'il passait pas si souvent que ça. Enfin, et même, tu vois, dans les services de streaming et tout, il est pas si souvent.
Moi, j'ai dû le louer, par exemple. Il est pas. Il est
bah
pas
ouais,
nulle part.
Et, et en fait. Pour
mais on sent que tu les as là quand même, les deux. On sent qu'il a les boules.
À chaque fois, il vous dit ça, il fait.
Déjà que c'est pour le boulot, ça me fait chier. Et en plus, il faut que je paye 3 balles.
On en a parlé la dernière fois.
C'était pas mal, votre film, mais bon.
Non, j'ai adoré.
Et ouais, pour l'avoir vu tard, ce qui m'a vraiment marqué, comme vous le disiez là, c'est. Que je trouvais que ça avait mieux vieilli que les autres films du même genre, tu vois, où des fois il y avait un regard un peu bizarre sur bah, le genre et tout, et sur le fait de, tu vois, ça restait quand même dans un point de vue très masculin, je trouvais. Et Tootsie, en fait, je trouve que ça évite tous les écueils des films de cette époque-là, même encore maintenant, pour l'avoir revu là cette semaine et tout. Je trouve qu'il n'y a rien qui a vieilli dans le propos, tu vois, alors que tout a changé dans la vision de ça.
Le seul truc qu'il n'arrive pas à faire, c'est embrasser, emballer Jessica Lange. En femme.
Femme. Ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Contrairement à moi qui à ma boum, j'ai emballé une meuf.
Ah ouais. Alors, tu savais que t'étais un garçon ou qui pensait que t'étais une femme ?
Non, elle savait que j'étais un garçon. Elle m'a connu, on est dans la même classe.
Ouais. Magnifique.
Là, tu vas loin.
Non, mais j'ai lu une interview de Sidney Pollack justement hier soir, et en fait, il disait que, et c'est une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas véritablement vieilli, c'est que sur le plateau, il faisait attention à ce que personne ne se moque du fait de se déguiser en femme, déjà.
Ouais, ouais.
Et il disait, je veux rien de vulgaire, en fait. On fait un film très sérieux, c'est comique, etc., mais on fait un film très sérieux, et je veux pas de pataquès ou de gros trucs grossiers, quoi.
Mais parce que la démarche de cet acteur, enfin, des acteurs en général, hein, c'est vraiment de faire l'expérience de l'autre. Il s'agit pas de... Il faut se mettre à la place, quoi, de l'autre. Donc, avec une empathie énorme du personnage, etc., et faire l'expérience physique, organique... émotionnel et tout ça. Enfin, c'est un peu ça le boulot. C'est-à-dire que quand tu lis un scénario, il faut faire l'expérience des émotions. C'est ce que moi, en tant que spectateur, on aime bien voir des acteurs qui font l'expérience à notre place de trucs qu'on aimerait pas faire ou qu'on rêverait de faire ou peu importe. Enfin, de choses légères, dramatiques, tragiques, peu importe. Et au théâtre, c'est pareil. Moi, quand je veux voir des acteurs vivants sur un plateau, j'aime bien que ça soit, qu'ils fassent l'expérience à ma place, quoi. Que je les regarde vivre un truc que moi, je ne vivrais pas.
D'ailleurs, tu as une préférence pour le théâtre.
Par exemple, c'est pour ça que je ne suis pas fan des conteurs, des gens qui racontent des histoires sans les vivre, en fait. Je préfère lire un bouquin, par exemple.
Et toi, tu as une préférence pour le théâtre ou pour le cinéma en tant qu'acteur ?
C'est différent. Je dirais que c'est à la fois le même métier et en même temps, c'est un peu différent. Le théâtre, c'est quelque part nécessaire, je trouve, pour apprendre son métier. Et puis, c'est plus difficile. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que deux fois, en fait. Donc, avec un metteur en scène qui était génial.
Qui était ?
Qui était acteur aussi, qui était John Malkovich. Donc,
ah oui, d'accord.
Bon, ça m'a vraiment marqué, quoi. Ça, j'ai appris énormément de choses. Mais depuis, j'en ai pas refait du théâtre. Mais j'ai adoré faire ça. Vraiment, on a joué pendant 6 mois, plus les 3 mois de tournée. Enfin. Et le cinéma. Le cinéma, quand je débutais, enfin au début, quand j'étais dans les cours de théâtre, j'y croyais pas trop à la magie du cinéma. C'est-à-dire le fait que quand on dit action, il y a vraiment un truc qui se passe qui fait que tu t'oublies et que tu es dans le vécu. J'avais du mal à croire à ça. Je croyais beaucoup plus au théâtre, en fait, pour l'acteur, pour l'art de l'acteur, quoi, entre guillemets. Alors que j'admirais que des acteurs de cinéma, enfin beaucoup d'acteurs de cinéma et de théâtre aussi, évidemment. Et puis j'ai découvert le cinéma avec Cédric Clapiche.
Ouais.
Donc j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un grand directeur d'acteurs. Et j'ai vu cette capacité des metteurs en scène à vous emmener très loin, quoi, dans la direction d'acteurs, et à donner un espace de liberté qui puisse vraiment permettre à l'acteur d'être dans un truc vécu. Pas forcément de jouer de manière technique, quoi. Donc ça, j'ai découvert ça aussi. J'ai été marqué par cette expérience avec Cédric.
Très bien. Mais de toute façon, on va y revenir.
Mais bon, voilà. Mais et puis c'est des réglages intérieurs. Tu vas parler plus fort au théâtre pour t'adresser à celui qui est au fond de la salle. Enfin, forcément. Mais en même temps, il faut pas que ça t'empêche d'être réaliste dans tes émotions. Bon, voilà, c'est des histoires de technique aussi. Et puis j'adore aller au théâtre aussi.
Très bien. Guillaume, ton premier souvenir lié à Tootsie ?
Moi, mon premier souvenir, c'était mes parents qui le regardaient. Et je pense que je devais avoir 7-8 ans. Et du coup, je captais pas trop. C'était pour moi, c'était un film d'adulte, quoi, tu vois. Mais par contre, j'ai un souvenir très précis de la scène où il descend les escaliers et où il enlève la perruque. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai fait... Oh! Tu sais, genre, oh! Tu sais, j'avais pas vu l'histoire, tu vois, mais j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que je regarde, tu vois? Ouais, ça m'a, et quand je l'ai revu, là, ça m'a refait le truc. J'ai fait, ah, mais je me rappelle exactement de cette scène. Donc, c'était vraiment tout petit. Et après,
tout
effectivement, hier,
c'est
quand je l'ai. Allez, là! Non, mais quand je l'ai revu, du coup, il y a deux jours, là, je me disais, effectivement, c'est que tu disais, c'est une comédie, etc. Mais ça aborde quand même les termes, des thèmes méga, méga lourds, quoi. Sur la... Parce qu'il y a quand même, même le viol, tu vois. Le viol, ouais, c'est abordé. Ouais, ouais. Genre, il y a quand même un mec qui squatte devant chez elle, qui la suit, ouais, qui monte chez elle, qui essaie de l'embrasser, etc. Et ben, faut les aborder, ces thèmes-là, tu vois. C'est hyper important. C'est pour ça qu'ils ont éludé aucun thème sur la condition de la femme, en tout cas, même, à l'époque, tu vois.
D'ailleurs, sur cette scène et tout, je trouve ça fort le dialogue qu'il y a, parce que, genre, Bill Murray, il essaie de faire une blague dessus. Il, ouais, fait, attends, c'est pas drôle, mec, c'est un viol. Tu sais, en fait, il le dit,
oui,
il le stipule dans le dialogue,
ah oui,
c'est là, tu vois, ouais, alors que c'est un moment, ouais, où ils faisaient tous comme si ça existait pas trop, ouais, ouais, ou que, ouais, juste, ouais, il le montrait, mais c'était pas stipulé. Et là, en une phrase, Dustin Hoffman, ouais, il a dit le truc, attends,
t'as
mec,
beaucoup
c'est pas
de
drôle.
Films où t'as des mecs qui essaient d'embrasser des meufs, elles sont là, non, non, voilà, ouais, on élude le truc. Et, ouais, là, on dit, ok, ça c'est un viol, ça s'appelle comme ça, tu,
ouais,
vois.
Ouais, et puis il dit, genre, moi, là, en tant que femme, il est en train d'enlever...
Il y a une interview de Dustin Hoffman qui pleure presque pendant l'interview, qui est assez... Enfin, moi, je l'ai vu... Par hasard, cette interview où il parle de Tutsi et où il parle de ce personnage et il parle de cette femme, en fait. Il parle pas de son rôle, il, ouais, parle de, ouais, cette, ouais, femme qu'il, ouais, a incarnée.
Ouais.
Et il en pleure presque, quoi. C'est-à-dire, ouais, qu'il est très... Mais il est très sincère, lui. Il fait pas d'interview... c'est très sincère chez lui. C'est pas... Il y a pas mal d'acteurs qui sont dans la pose, des fois, qui sont là... Ouais. Moi, j'avais vu une masterclass de Dustin Hoffman à San Francisco, dans le beau Castro Theater, là. 4 heures de masterclass et tout. Le mec, quand il parle de son travail d'acteur, waouh, c'est assez impressionnant. C'est vital. Chaque prise, chaque, enfin voilà, il est dans un rapport vital à son jeu d'acteur.
Ça a l'air d'être ton acteur préféré, non, de toute façon.
J'en parle là parce qu'on parle de Tutsi, mais, ouais, si on avait pris Il était une fois en Amérique, bon, évidemment, j'aurais, ouais, parlé de... Mais, ouais, ça a été mon acteur préféré parce que Little Big Man, par exemple.
Mmh. Ouais.
Parce que ouais, le plus grand western humaniste de tous les temps. Parce que Marathon Man, parce que... Mmh. Parce que des comédies, parce que plein de...
Parce que Rain Man.
Parce que Rain Man, bon, voilà. Mais, ouais, c'est vrai que je suis rentré dans le... Oui, c'est par Dustin Hoffman, c'est vrai que j'ai... Mais bon, non, mais j'en ai plein d'autres, hein, des acteurs préférés.
Ouais. Moi, là où je le préfère, c'est dans Le Récidiviste de Steve Hoffman.
Ah ouais,
de Hulu Grobar.
Ouais. Bah, j'ai préféré le bouquin, parce que malheureusement... Ouais, mais vas-y, pardon, je te coupe.
Non, de Hulu Grobar, le réalisateur.
Oui, 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 et donc, c'est là où tu l'as préféré.
Ouais, je l'adorais, il est trop fort. Mais vraiment, c'est dans toute cette période 70. Pour moi, en fait, s'il y a un acteur qui représentait 70... C'est pas De Niro, c'est pas Pacino, c'est Dustin Hoffman. Ouais. Pour moi, c'est les 70, Dustin.
Le problème de Dustin Hoffman, c'est quand il joue les voyous, c'est compliqué.
Ouais, c'est pas...
Ouais, tu trouves,
vois que c'est pas...
Contrairement à Pacino, De Niro,
oui,
même d'autres acteurs...
Ah mais oui, mais complètement.
Mais dans Le Récidiviste, je suis d'accord avec toi, c'est un rôle de malfrat dans lequel il est crédible, puisque c'est un malfrat
un peu loser.
Un peu loser, ouais.
C'est un petit malfrat, on est dans le banditisme du milieu, c'est pas un gros...
C'est juste un pauvre type, quoi.
Et il est en galère... Et évidemment, il va récidiver. Et très émouvant. Et le bouquin de Bunker, il est extraordinaire.
Bah, tu vois, je savais pas qu'il y avait eu un bouquin.
C'est adapté du bouquin de Bunker.
Eh ben, je savais pas. Justement, on parlait
juste qui joue dans Reservoir Dogs, Bunker, Edward Bunker.
Ah, je savais pas.
Dans la scène d'ouverture.
Ouais, parce
que j'ai dit que Madonna, c'est une vierge.
Des petites infos croustillantes. On aime bien.
Est-ce que vous pensez que Dustin Hoffman, parce qu'il s'appelle Man, il a joué dans Marathon Man, Red Man.
Oh, ok, il lance.
C'est quoi son super pouvoir? Finalement, c'est quoi son super pouvoir, Dustin Hoffman?
Hoffman, là.
Non, mais c'est vrai, personne n'avait noté. Justement, on parlait de scène, justement, Guillaume. Est-ce que Vincent. Quelle est ta scène préférée dans toute cette histoire ? La première scène qui te revient en tête comme ça, une scène qui t'a marqué dans le film.
Bah la scène où il prend le pouvoir en tant qu'acteur. Où il s'émancipe de la direction d'acteur codifiée chez les femmes. C'est-à-dire que lui, il se retrouve dans cette peau d'actrice et on veut le diriger comme une actrice et ça le gonfle. Et il se rend compte à quel point on dirige mal les actrices, en fait. Mmh. Et que les personnages féminins sont écrits comme de la merde, etc. Enfin, il se rend compte, d'un coup, à quel point... voilà. Et il prend sa liberté d'artiste. Et ça, chez Dustin Hoffman, ça doit résonner fort, parce que dans sa masterclass, il en parlait, de ça. Du fait que... du fait qu'un choix de jeu, c'est ta liberté. Elle est là, ta liberté. Évidemment, il faut choisir ses projets, il faut choisir les bons films, mais quand t'as pas les bons films, quand t'as pas les bons projets, quand t'es pas dans le top 5, tu fais comment? T'as tes choix de jeu. Entre action et coupé, c'est là où tu t'exprimes. Ta créativité. Si t'as un bon directeur d'acteur en face, il va comprendre ton choix de jeu, il va t'emmener. S'il comprend pas et qu'il te dit faut pas faire ça, bah tu fais autre chose, de pire, de meilleur, de enfin. Et il fait ça dans tout de lui. C'est-à-dire qu'il est mal dirigé, on le met dans une et il arrive à prendre sa liberté d'artiste, d'acteur,
quitte à changer le texte,
À changer le texte, etc. Et à faire des choix qui convainquent au-delà de au-delà du programme en lui-même, qui est un soap opéra de merde. Et à l'intérieur de ça, il arrive à faire quelque chose qui est beau chez un acteur. C'est être libre, s'autoriser toutes les libertés de jeu, sans jamais manquer de générosité envers ses partenaires, d'écoute envers ses partenaires. Enfin, ça, c'est vraiment les scènes où il commence à prendre à se libérer, à lâcher Tutsi. Il lâche le perso. Il envoie. Ça, j'adore cette scène. Et j'adore la scène avec le beau-père.
Oui,
il lui rend la bague.
Au bar, incroyable.
Et quand il dit aussi, remets ça dans ta poche, remets ça dans ta poche.
Et moi, c'est
la boîte dehors. La boîte dehors.
C'est justement ma scène préférée à moi. Quand il est avec
parce que là, on touche aussi à ce thème, enfin sur la sexualité des hommes, et sur cette gêne.
Ouais, grave.
D'un coup, il a peur qu'on le prenne pour un homo dans le bar et tout, tu vois. Et c'est pas du tout le thème du film principal, mais. Et là, d'un coup, il se passe un truc entre eux, ça a été trop intime. Et cette génération-là, ce mec old school, il peut pas l'encaisser, ça, il peut pas.
Aurélien, toi, ta scène préférée?
Moi, je pense que ça se joue entre les deux dialogues et rencontres entre Jessica Lange et Dustin Hoffman, quand on sent que elle essaie de lui expliquer que elle est différente, que Tutsi elle est différente pour elle, mais qu'elle sait pas si c'est de l'amour, qu'elle veut pas avoir une copine bouche-trou, enfin toute cette explication un peu où tu sens qu'en fait ils se rapprochent mais ils savent pas trop ce que c'est, lui il essaye de lui dire des choses en même temps. Et je crois la scène que j'aime le plus, mais c'est aussi dû au montage de Sydney Pollack par rapport à ça, c'est genre quand elle lui dit un peu avant, quand ils sont en train de manger ensemble, je rêverais qu'il y ait un mec qui vienne me voir et qui me dise à l'endroit au but, là. Et lui il le fait en tant que mec, il fait exactement ça, et en fait il a sa tronche là un peu de mec perturbé où on sait pas, et il lui fout juste un verre d'eau à la gueule, il s'essuie sur la veste, de côté, et puis il fait oui bon, et après pousse ta coupe et on passe complètement à autre chose. Incroyable.
Guillaume, toi ta scène?
Moi c'est plusieurs scènes, mais c'est à chaque fois qu'il parle à son manager. La première fois où il va dans le bureau du manager, il dit comment ça se passe, personne ne veut me faire jouer, je devais avoir ce rôle et tout, et à chaque fois le manager il dit mais personne ne veut bosser avec toi mec, c'est un enfer, même à Hollywood et tout.
Non, et puis il y a un truc qui lui dit extraordinaire dans cette scène, c'est qu'il dit bon écoute, tu vas te calmer parce que la dernière fois ton dernier job c'était une bouteille de ketchup.
C'était la tomate.
Et il dit me dis pas ça parce que j'ai été la meilleure tomate de tous les temps, ils ont jamais vu une tomate. Et en fait, et ça c'est un truc qui m'avait touché aussi, c'est que moi quand j'étais jeune et que je voulais devenir acteur, je comprenais que quel que soit le rôle en fait que t'as dans au début, tous les débuts sont bons. C'est-à-dire que tu choisis pas tes rôles au début, tu choisis pas tes films. Tu prends ce qu'il y a, et à l'intérieur, faut donner le meilleur de toi, même si tu trouves que c'est de la merde, etc. Et ça n'empêche pas de savoir que tu fais de la merde. Ça n'empêche pas de savoir que t'es dans un sitcom ou un téléfilm bidon ou un film bidon avec. Mais donc t'es lucide sur là où tu es. Et encore aujourd'hui, même si j'ai fait plein de films, il y a des fois où faut savoir où tu es. Mais donne le meilleur, vraiment, et essaie d'être le meilleur, la meilleure bouteille de ketchup.
La meilleure tomate, c'est clair.
Ou la meilleure tomate.
C'est vrai que t'as voulu t'asseoir en tant que tomate, personne s'assoit. C'est ma tomate, t'as voulu s'asseoir, je pensais qu'il fallait jouer cette tomate.
Et tu vois, sur cette scène-là, je me dis, il y avait vraiment un truc où tu vois que les deux acteurs, ils se font plaisir de ouf, tu vois. Tu vois que ça les amuse de fou de faire ça, tu vois. Et même dans le deuxième dialogue où il lui dit... elle croit que je suis lesbienne, mais lui il a voulu me marier et tout. Il y a un gros quiproquo où ils sont là. Mais attends, c'est-à-dire que t'es lesbienne? Et il fait, mais non, Si, elle est lesbienne. Il fait, mais attends, mais du coup, tu t'es
mariée. Elle est lesbienne pour
le coup. Je suis pas mariée, on m'a demandé en mariage. Et c'est là, genre, quoi, il y a un quiproquo de fou.
Ça va trop loin pour le. Et c'est Sidney Pollack, d'ailleurs, qui joue le rôle.
C'est trop marrant.
Bah justement, après, on va y venir avec Aurélien, tout ça. J'aimerais quand même parler vite fait de Terry Garr, cette actrice, parce que il y a quelques mois, j'ai maté un film avec Michael Keaton. Je crois que c'était le premier film de Michael Keaton. C'est un film comme ça, une comédie mineure de John Hughes. C'est une des premières écritures de John Hughes. Et c'est un film dans lequel. Qui parle encore aussi d'un truc d'actualité, à savoir l'homme qui prend la place de la femme pour une fois, parce que c'est l'homme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et c'est la femme qui va travailler. Donc c'est un film vraiment moderne pour son époque, et c'est Terry Garr qui joue dans ce film. Terry Garr, c'est dans le film, dans Tootsie, sa pote avec qui il sort, avec qui il couche une fois.
Sandy.
Et en fait, cette actrice, je me suis renseigné sur elle quand même, parce que je la trouve assez forte, ouais. Et je me suis rendu compte qu'elle a une filmographie assez folle, parce qu'elle a joué dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola, ouais. Ensuite elle a joué dans Rencontre du troisième type, ouais. Elle a joué dans L'étalon noir, elle a joué dans Coup de cœur de Coppola, elle a joué dans Tootsie, donc elle a aussi joué dans After Hours de Scorsese, plus tard elle a joué dans Dumb and Dumber.
Et je crois qu'elle joue dans Kramer contre Kramer, elle joue pas la copine.
Alors je crois pas, en tout cas c'est pas noté dans sa filmo.
Mais par contre, on la voit beaucoup dans ce cinéma là ouais, cette époque là.
Exactement. Ouais, ouais, et ouais, la triste issue de cette histoire, c'est que en fait elle a été atteinte de sclérose en plaques, et c'est pour ça qu'on l'a moins vue après en fait au cinéma. Mais c'est une formidable actrice dont on parle.
Mais tu vois, c'est pas pareil assez. Cette scène où elle frappe à la porte et il est avec Bill Murray et il est encore en meuf.
Ouais.
Et donc ils sont là genre attends, je suis sous la douche, etc. Ouais. Etc.
Encore une scène qui est reprise dans Doodfire par exemple. Tu vois,
ouais.
Quand ça cogne à la porte et qu'il
prend feu et tout là, qu'il va un
et
peu partout.
Et il est partout, ouais. Et après il lui dit bon bah dis-moi la vérité et tout.
À chaque fois
j'aime quelqu'un d'autre. Et là elle explose.
Ouais.
C'est trop bien.
Vous préférez Michelle Leeb ou Robin Williams en ouais, mais je...
Alors, c'est dur, c'est horrible.
Il y avait pas de. Oui, on va enchaîner. Il y avait pas trop de
films. Il y avait pas trop de films. En plus, on ne répond pas. On
juste à rire, genre. Ouais, ouais, okay, ouais. Moi, j'ai tourné avec Michel Leeb. Il jouait mon père dans un film et j'avais bien aimé jouer avec lui.
Mais je trouve qu'il a un truc un peu de showman.
Ouais. Et il avait fait un truc qui était vachement, qui était difficile à faire. Il devait chanter devant toute une assemblée, quoi. Et il était émouvant, il avait chanté une chanson assez émouvante.
C'était pour quel film ?
Un film qui s'appelle...
Quand tu te souviens plus du nom de tes films, c'est que t'as une filmographie chargée.
Non mais, si on doit le noter, bon, je veux pas rentrer là-dedans, mais... Daddy Cool,
okay.
Et il jouait mon père.
Très bien.
C'était lui le Daddy Cool, pourquoi ?
Non, c'était moi le Daddy Cool et lui jouait mon père.
Mais je me posais une question, pardon, à propos de Dustin Hoffman. Est-ce que quelqu'un a l'info? Parce que là, on le voit donc, dans le film être acteur. Au tout début, on le voit sur plein de plateaux où il fait... justement, ça devait rejoindre ce que tu disais de la masterclass où
ouais,
il dit « Non, mais je vais pas faire ça correspond pas du tout à mon rôle, etc. Ouais. » Méga investi. Et je me demandais comment il était sur des plateaux, tu vois. Parce que tu sais, on sait, par exemple, des Edward Norton, ils sont affreux, etc.
Ouais, ouais.
J'arrive pas à voir Dustin Hoffman affreux sur un plateau, tu vois ce que je veux dire.
Quand on travaillait sur la pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué, qui était dirigée par Malkovich, il donne pas beaucoup de... Il parle pas beaucoup des autres acteurs, forcément, et tout, mais il parlait souvent de Dustin Hoffman. Il a beaucoup appris à son contact. Et il m'avait dit que c'est un acteur qui joue le plus vite, par exemple. Il me disait, on peut toujours jouer plus vite. Dustin Hoffman lui avait appris ça. C'est vrai que quand tu regardes les films de Dustin Hoffman, il joue à une vitesse.
Ouais, ça va physique super de vite.
Il joue ultra vite et il entrecoupe les répliques de l'autre. Il fait des... Et sur le rythme. Et non, il disait qu'il était très obsessionnel, quoi.
Ouais.
Très très méticuleux, très.
Bah d'ailleurs, j'avais lu hier que apparemment sur le tournage de Tootsie, Dustin Hoffman demandait souvent à Pollack d'en faire un peu des caisses sur le personnage féminin, quoi. Lui, il voulait vraiment pousser à l'extrême le truc avec pas mal de guignolerie et tout. Et en fait, c'est Pollack qui le maîtrisait sur le plateau en lui disant non, on va vraiment essayer de rester sobre. C'est important pour le propos du film, etc. Donc lui, il était vraiment force de proposition. Alors Aurélien, Tootsie a donc été réalisé par Sidney Pollack, et s'il y a bien une chose qu'aimait faire ce réalisateur, c'était jouer dans ses propres films, et plutôt très bien. T'en parlais juste avant Vincent, je trouve qu'il joue hyper bien Pollack en fait.
Ouais, mais parce que Sidney Pollack, il vient du théâtre yiddish en fait. Ses parents, c'était des... Il est issu d'une génération qui n'existe plus maintenant, mais qui était à New York, qui existait beaucoup, les Groucho Marx aussi. C'était le théâtre yiddish, et lui, en fait, il vient d'une famille comme ça. Il a fait un documentaire sur Sanford Meisner, par exemple, qui est un grand directeur d'acteurs, qui avait monté une école. C'est la même génération que Stella Adler, Lee Strasberg, acteur studio et tout. Ils étaient tous les trois, ils se sont séparés, chacun a monté son truc. Et Sanford Meisner, il a été filmé par Pollack pendant des heures et des heures et des heures. Et Pollack, il allait chez Meisner. C'est un très bon acteur. Ouais,
et surtout,
il joue dans les White Shots, il est très bon.
Exactement.
Ouais,
Et surtout, on sent qu'il prend du plaisir à jouer en plus.
Ouais, ouais.
Et donc, Aurélien, des réalisateurs qui ont joué dans leur propre film, il y en a eu quelques-uns. Et tout comme Polak, c'est souvent pas mal.
Tout à fait. Pour le coup, je vous propose un petit jeu.
Allez.
En gros, voilà, on va essayer de trouver des acteurs qui jouent dans leur propre film. Donc, réalisateurs qui apparaissent dans leur propre film.
Attends, des acteurs qui ont fait des films ou...
Des réalisateurs qui jouent dans leur propre film.
Qui jouent, d'accord, ok.
Voilà, on en connaît plusieurs, je me dis juste, pour que ça soit un peu plus compliqué, je vais vous donner des éléments de leur vie privée.
Ouais.
Pour essayer de voir si vous trouvez quelle personne c'est.
Ok, pareil.
Pour le premier.
Hitchcock.
Hitchcock, c'était plus le roi du caméo, non?
Ouais, lui, c'est le caméo, il joue pas.
C'est muet, mais on le voit beaucoup. Dans sa jeunesse, il est surnommé Red en raison de la couleur rousse de ses cheveux.
Ron Howard.
Non.
Ok.
Au lycée, il impressionne les autres étudiants par son extraordinaire habileté aux cartes et ses tours de magie.
Steve Martin.
Non.
Qui ne réalise que peu de films, même pas. Je ne sais pas s'il a déjà réalisé. Bon, bref, ok.
Je bug sur les cheveux rouges.
Bah, moi, je ne savais pas qu'on l'a. Enfin, mais oui, qu'il était capté. Bah, c'est pas évident maintenant. C'est pas évident maintenant.
Ah ouais, ok, d'accord.
Enfin, c'est vraiment début de carrière, je pense. Quand il était jeune, il devait être beaucoup plus roux que maintenant.
Ah bah, je peux proposer. Alors, je sais que j'ai déjà proposé deux, c'est horrible.
Ouais.
Mais j'ai envie de proposer Woody Allen, du coup.
Oui, tout à fait.
Ah, bien sûr.
Le dernier, c'était à 19 ans, il est chargé de rédiger des sketchs pour d'importantes émissions comme le Ed Sullivan Show, le Tonight Show ou le Kaiser Arno.
Ok, d'accord. Putain,
ouais, Woody Allen, t'as quand même joué dans 31 de ses films. Donc, quasiment tous ses films, il a joué en plus, quasiment toujours le rôle principal. C'est un peu le numéro 1 de ce truc d'acteur-réalisateur.
Tu sais qu'il était très sportif.
Ah ouais?
Oui, c'est pas du tout le personnage chétif, pas du tout sportif. Il était très sportif, Woody Allen.
Ouais, j'ai vu ça.
Je savais pas.
C'est un truc qu'on n'imagine pas quand on voit ses films.
Bah, il y avait un autre truc aussi que j'ai appris dans sa bio, c'est qu'il disait qu'il était très apprécié de ses collègues, qu'il était pas du tout le mec un peu en dehors, un peu bizarre et tout, qui jouait
dans
ses films.
Ouais, voilà, pas du tout.
C'était un gars hyper charismatique, qui faisait beaucoup de shows, qui était cool.
Mais c'est marrant ce que tu dis, Vincent, bien, parce que dans Annie Hall, il y a un passage où il mate un match de basket avec passion.
Ouais.
Et en voyant ce passage, je me disais, ça colle pas trop avec Woody Allen. Et là, tu m'apprends qu'en fait, il était sportif. Donc...
Bah, mec, fan de baseball, de basket, de tout.
Ok, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Incroyable. Donc, oui, c'est a priori le réalisateur qui a le plus joué dans ses films. 31 de ses films, c'est assez fou. Deuxième personnalité, il est allé au lycée à côté d'Oakland, en Californie, mais a vite été expulsé pour avoir détruit un terrain de foot mouillé en faisant du vélo dessus.
Ouais.
Juste un fou comme ça.
Spielberg.
Non.
Non, il joue pas dans ses films, Spielberg.
Très peu.
Ouais, non.
Merde, tu es nul à ce jeu, ça m'énerve. Putain, ça me gonfle. Dans les émissions, on me fait des quiz, je stresse.
Spielberg qui a joué dans Gremlins.
Il a joué dans Gremlins.
Ouais, il joue plus dans les films des autres.
De ses potes.
Ouais.
Autre anecdote un peu plus longue. Un soir, alors qu'il rentre chez lui en voiture avec des potes, il manque de percuter des chevaux qui traversent la route. L'un des potes reconnaît les chevaux. Tous descendent alors de voiture et ramènent les chevaux à Howard Hawks, qui habitait pas loin. Et le réel acteur croise ainsi, pour la première fois, Hawks, scénariste, réalisateur et producteur de nombreux films importants pour la carrière de notre inconnu, celui qu'on recherche.
Donc il est un
cependant,
peu âgé.
Il n'échange aucune parole avec Hawks lors de cette rencontre fortuite.
Non, c'est j'avais quoi, pas Howard Hawks, c'est pas Chaplin, parce que Chaplin, c'est avant Hawks, je crois.
Ouais. Non, on est sur quelqu'un qui a fait carrière après la guerre.
Ah, ok.
Ok, pour l'instant, je n'ai pas.
C'est tout à fait Eastwood.
Ah, joli. Ah,
la dernière, c'est qu'il s'engageait pour la guerre de Corée et a failli mourir dans un amérissage forcé. Et c'est ce qui lui a donné l'idée d'un film. Sully, c'est en effet Clint Eastwood qui lui Clint a joué Eastwood, dans 25 de ses films.
Il a dit un truc sur la vieillesse, mais sublime. Là, on lui posait la question sur la vieillesse parce qu'il est très vieux, il continue à réaliser des films et tout. Et il a dit tous les matins, le vieux, je le laisse pas entrer, il vient frapper à la porte. Et je le laisse pas entrer.
Il a toujours des bonnes punchlines comme ça.
Ouais,
il frappe à la porte tous les matins, ce vieux-là, et je le laisse pas entrer.
Moi, l'anecdote que j'aime avec Eastwood, c'était justement sur Sully, parce que c'est Tom Hanks qui joue le rôle principal dans Sully.
Ouais.
Et en fait, Tom Hanks expliquait dans une interview que quand on se fait diriger par Clint Eastwood, alors vous imaginez le charisme de ce type, et souvent, Tom Hanks avait des propositions comme ça de jeux d'acteurs, et Clint Eastwood, en général, il disait « That's enough of that ». C'est juste ça, il disait « Ok, arrête ».
On l'a dans la boîte et tout, on n'a pas le temps.
À Tom Hanks.
Et aussi, il y a des trucs où ils disent que sur les plateaux, c'est genre d'une sérénité folle et qu'il finit méga tôt parce qu'il veut jouer au golf et tout.
Alors, ça, parce qu'à l'époque où je faisais du théâtre, il avait parlé de ça, Malco. Et il disait que Eastwood, il finissait très tôt et il était à 14h ou un truc comme ça.
Il était fait capable 3 scènes, puis dit oui,
de faire des scènes ultra longues, ultra complexes, en très peu de plans, pour finir plus tôt. Et ouais, c'est un mec qui maîtrisait sa mise tranquille. En scène.
En tout cas, t'es bien dans ta vie quand tu peux appeler Malkovich Malko. J'aimerais bien pouvoir l'appeler Malko, moi aussi.
Je le dis entre nous, comme ça.
Entre potes.
Monsieur, devant lui, je dis monsieur. Maître.
Très bien, Aurélien.
Monseigneur.
Alors, un autre un peu plus difficile, mais... Bon, ça va. C'est juste là, Woody Allen, Clint Eastwood, c'était un peu les premiers réalisateurs-acteurs, mais celui-là est peut-être un peu moins évident. Après ses études, il travaille comme encadreur dans l'entreprise familiale Van de Hoof, et il est formé par son grand-père. Il y a déjà un indice dans l'entreprise familiale.
Ouais.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé dès septembre 39 au 16e régiment des Dragons, puis dans une unité avec laquelle il participe en mai 40 à la bataille de la Meuse. Il se replie en Dordogne et il est démobilisé.
Non, j'allais dire Billy Wilder, mais je ne joue pas dans ses films, Billy Wilder.
Non, puis Van Hoof, on est plus sur de la France.
Ah ok, d'accord.
Merde.
Il se produit à la Scala de Berlin en 1942, puis il quitte Paris et passe quelques mois en 1943 à Saint-Sever avec un ami, le scénariste Henri Marquet. Ils y écrivent le scénario et le script de L'École des facteurs.
Je vois pas.
Putain.
Ça m'a saoulé, là.
Il n'aime pas les quiz. Ouais,
c'est Jacques Tati.
Ah, j'allais le dire en plus. Ah, j'allais le dire.
Aïe, aïe, aïe.
Je me suis pas fait confiance, tu vois.
Ouais, bah, fallait y aller.
Ça, c'est vrai.
Ouais, faut y aller, y a pas de mauvaise réponse aussi.
Qui joue dans ces 6 films, en fait, qui a le rôle principal dans les 6 films qu'il a réalisés et qui a écrit.
Et le prochain, tu vas y aller, t'auras faux, tu vois. C'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
Eh bien, oui, j'en ai deux derniers, dont un qui est juste une blague. Mais j'en ai un dernier qui est pas mal. Il a tourné la plupart de ses films près de chez lui, à Philadelphie, pour rester proche de sa famille.
Ok.
Il avait réalisé déjà 48 courts-métrages en sortant du lycée.
48.
Wow.
Grand fan de Spielberg, il avait écrit un scénario complet d'un Indiana Jones qu'il n'a jamais proposé.
Mm-hmm.
Et il a failli réal un Harry Potter.
On n'a pas plus d'indices ?
Non. J'en ai un autre, mais si je vous le sors, bon, ça va être un peu rapide.
C'est pas grave, on apprend plein de trucs.
Il a vécu toute sa jeunesse en Inde. Voilà, bon.
Ah oui. Shyamalan.
Tout à fait, c'est
Night
Shyamalan.
Bravo.
Qui apparaît dans.
Il tourne jamais en dehors de Philadelphie.
Bah, il essaye en fait, parce que sa famille habite juste à côté. Et donc, tous les films qu'il réalise, il s'arrange pour que ça soit tourné. En tout cas, quand il y a des scènes de ville et tout, il dit la seule fois où il l'a pas fait, c'est sur le film Old, qui se passe sur une île déserte. Donc, forcément, il ne pouvait pas le faire à Philadelphie. Mais sinon, toutes ces scènes dans Incassable, toutes les scènes de ville, il essaie que ça soit tourné dans la région de Philadelphie pour qu'il puisse rentrer chez lui en famille pendant les tournages.
Ok, pas mal. Bon, bah bravo.
Et Shyamalan est vraiment dans ces 10 films, et des fois il a des vrais rôles, comme dans Le Sixième Sens, où il a un rôle,
joue un médecin.
Rôle du psychiatre.
Je me souviens pas de lui dans Incassable.
Il a un plus petit rôle, genre je crois il joue un taxi, mais à chaque fois il mélange entre caméo à la Hitchcock et vrai rôle un peu.
Dans Incassable, je me demande s'il joue pas un rôle d'un stadier ou un truc comme ça.
Ouais, il y a moyen, je crois ça. Et j'en ai un tout dernier, mais c'était un peu une blague. Seul indice, il a travaillé dans un vidéoclub.
Tarantino.
Et voilà, merci. Qui a joué aussi dans ses 10 films à des moments un peu différents, etc.
Alors, Vincent, il y a un mois, nos premiers invités pour ouvrir cette nouvelle saison étaient donc Olivier Nakache et Eric Toledano, que tu connais bien.
Oui.
Et au milieu du podcast, j'ai lancé une forme d'interview qui a très bien fonctionné, à savoir revenir sur leur filmographie avec une anecdote pour chaque film. Je vais donc réitérer le concept avec toi, si tu le veux bien. Je vais te citer plusieurs films dans lesquels tu as joué. Et l'idée est de me sortir une première anecdote, enfin la première anecdote qui te vient à l'esprit, le premier souvenir. Je vais désormais appeler ça l'interview Toledano Nakache. Est-ce que tu es prêt pour ça ?
Allez-y.
Je vais revenir sur ta filmographie de façon chronologique. D'accord ? Ouais. Je vais commencer donc avec ton premier rôle, et c'est pas mal, puisque c'est dans Le Péril Jeune de Cédric Clapiche en 94.
Ah oui.
Est-ce que tu as une anecdote à propos de ce... Déjà, c'est une première expérience déjà.
Oui, c'était première expérience... Le casting a été très long pour moi, parce qu'ils étaient tous choisis, sauf moi.
Ok.
Et à la fin, au bout d'un mois et demi de cast, je me souviens que j'étais venu faire beaucoup, beaucoup de scènes d'impro, tout ça. Il me fait passer avec la bande. Je savais pas qu'ils étaient tous choisis, en fait, mais bon, il y avait tout le monde. Il y avait Romain, il y avait Nicolas, Julien, Joachim, tout. Il y avait... Il y avait Julianne Roth aussi. Et je m'en vais, je sors, et puis j'attends dehors, et il me rappelle, et il me dit, c'est bon, t'as le rôle. Donc j'étais super content, et après, il m'a expliqué que c'est eux qui avaient choisi. Ah. Il savait pas, en fait, il hésitait. C'est à la fois pas à mon avantage, cette anecdote, mais en même temps, c'est hyper touchant, parce que c'est eux qui ont choisi entre deux acteurs. Et ils m'ont choisi moi. Parce que Cédric hésitait entre moi et un non-acteur, en fait.
Ok.
Voilà. L'anecdote n'est pas super drôle.
Non,
attention,
si, bien.
Cette interview de Toledo d'un cache marche avec Toledo d'un cache, moi, je pense. Mais... parce qu'ils sont deux très drôles, ils sont en binôme. Mais bon.
Ça va monter en régime.
97, oui, oh bah oui, bien sûr.
J'en parlais en intro, j'enchaîne avec les
quand
randonneurs.
Quand tu démarres mal, c'est pas bon.
Comment ?
Quand tu démarres mal, c'est jamais bon.
97, j'en parlais tout à l'heure, les randonneurs, Philippe Harel.
Oui.
Alors en Corse, tournage en Corse. je te lance sur des pistes.
Essaye de me le. Eh oui. Ah là là. Extraordinaire.
Eh bien, merci pour cette anecdote.
La Corse. Les champs en Corse. Non, oui. Écoute, j'ai plein de souvenirs. J'ai plein de souvenirs. Hein. Ouais. Vraiment des super souvenirs.
Très bien. Je vais enchaîner avec un autre film. Non, alors là, là, 97, c'est quand même une grosse année pour toi parce que tu enchaînes avec Les Vérités si je mens de Thomas Gilou.
Ah ouais.
Donc là, tu as forcément des anecdotes sur ce film. Vérité si je mens.
Si je mens. Alors attention. La rencontre avec. Non, écoute, on faisait beaucoup la fête.
Ouais.
Je me souviens qu'on sortait beaucoup. J'ai un souvenir de sorties nocturnes, pas mal.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 25, 26.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Donc là, tu te retrouves à 25 ans quand même dans un film qui cartonne. Les randonneurs, ça avait cartonné. Mais là, la vérité, si je mens.
Ouais, on savait pas. Hein, sur le tournage, on doutait énormément de ce qu'on faisait.
Ok.
Et du film qu'on était en train de faire. On était à la fois très soudés, on s'entendait super bien. On se marrait tout le temps et en même temps on se regardait en se disant c'est quoi cette merde qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est que ce film ? Après ça n'a ni queue ni tête, on tourne des plans dans tous les sens. C'est, on tournait tellement de plans en fait. Il y avait une technique de tournage qui était faisons beaucoup de plans, on verra au montage. Il y avait un truc un peu comme ça, faisons de la matière et on verra au montage. Donc en termes de comédie, niveau rythme et tout, c'était compliqué quoi parce que c'était tellement découpé parfois. Enfin, et je me souviens qu'on doutait énormément de ce qu'on était en train de faire. Quand on a vu le film, je me souviens que dès le générique, j'ai senti que c'était bon quoi, que ça allait être bien. Ouais. Ouais.
Alors pourquoi, du coup, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais pourquoi Dove n'est pas revenu dans La Vérité si je mens, en tout cas interprété par toi ?
J'avais pas envie. J'avais déjà dit à l'avant-première du premier, quand ils ont dit on va faire le 2, j'ai dit moi, c'est ça sans moi. Mais ils n'ont pas cru que j'allais... Voilà, après j'ai demandé plein d'argent. Ils ont bien voulu... Non mais, des fois on demande beaucoup d'argent pour ne pas faire un truc.
Ah,
ils m'ont dit oui.
Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est une super anecdote ça.
Ouais, je ne voulais pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Non mais aujourd'hui je me dis que ça n'aurait rien changé à ma carrière, que j'aurais pu le faire. Mais, Bon d'abord, d'abord Gad était prévu sur le premier.
Ok.
J'ai pris son rôle.
D'accord.
Parce qu'il est allé faire un autre film. Donc, ils sont revenus à Gad aussi après que j'ai refusé, quoi.
D'accord.
C'était un peu, pour eux, c'était pas non plus illogique. Et puis après, Gad, je sais pas comment c'est passé pour le 3. Peut-être qu'il a pu voulu le faire ou ils m'ont proposé direct. Je me souviens plus.
Oui, après, t'es
mais bon, on a fait
3.
Pas mal. Avec Farid et Aïssa, on avait une histoire aussi. On avait fait Le Péril Jeune. On a fait d'autres films derrière. On avait fait Ni pour ni contre de Clapiche. Entre-temps, malgré le refus de La Vérité 2. Donc, on avait une histoire avec les producteurs aussi, avec Farid et Aïssa, avec qui je m'entendais super bien, quoi. Je sais pas, j'avais peur de le faire. C'est bizarre, oui, j'avais peur de faire le 2.
D'accord.
Je sentais que j'allais... Je voulais pas... qu'on m'appelle Dove toute ma vie dans la rue.
Et de coup, on t'appelle Dove encore ou pas ?
On m'appelle Vincent je préfère.
99 maintenant, un film que j'avais bien aimé quand j'étais ado, et on parle jamais de ce film, c'est Quasimodo del Paris de Patrick Timsit.
Ah ouais.
T'as joué dans ce film ?
Ouais, bien sûr. Ouais, alors ça j'en suis sûr.
C'est l'info que tu me donnes.
Sur l'anecdote.
Tu me confirmes.
J'ai bien joué dans ce film. Et ouais, alors plein de. Non, mais
tu prends du plaisir dans cette interview.
C'est un cauchemar. Je sais pas pourquoi je suis mauvais comme ça. C'est,
non, mais des petits souvenirs de comment t'étais à l'époque.
C'est quand même fou cette histoire. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que je suis nul en interview comme ça?
T'écriras pas un mémoire de ta carrière.
Pose des questions, ça. Je suis pas capable de souvenir d'une anecdote, putain.
Alors attends, parce que là, en fait, j'ai.
C'est insupportable.
Je fais un saut en 2 minutes. T'as aussi joué dans Embrasser qui vous voudrait de Michel Blanc.
Ouais.
Je m'attends à aucune anecdote.
Oui, bah ouais, c'était.
Bah oui, c'était bien.
C'était bien. C'était un film de Michel Blanc. Ouais.
C'est un fiasco.
Merci Eric et Olivier.
En plus,
merci de te la cacher.
Eux, ils étaient là, genre on a rencontré Spielberg, on a fait des
trucs. Ah bah eux, ils ont des, ouais, ils ont une vie palpitante. Ils ont une vie d'anecdotes palpitantes.
Ah bah attends, justement, ouais. On s'éloigne de la comédie en 2007. Ouais. Parce que tu joues dans le dernier gang d'Ariel Zetoun. Là, t'as forcément des anecdotes. Quand même.
Oui, la rencontre avec avec le vrai.
Ah voilà.
Le vrai braqueur.
Et on sait comment du coup.
Là, il m'a regardé, il m'a demandé de me lever. Je me suis levé, il m'a dit t'es grand, t'es très grand. Je lui ai dit bah oui. Il m'a dit j'ai toujours rêvé d'être grand.
Ah pas mal.
Parce que lui était vraiment tout petit. Mais non, bah c'est un particulier la rencontre avec avec un personnage réel.
C'était la première fois que tu devais jouer quelqu'un qui existait vraiment.
Je crois, oui.
Et donc, comment on travaille dans ces cas-là? C'est-à-dire que on... Parce que moi, j'ai souvent lu des interviews.
Moi, j'avais joué Dali au théâtre.
Ok.
Ouais, bon, je ne l'ai pas rencontré, quoi. C'était ça, l'anecdote.
Bah, avec
mais c'est trop con, parce que là, du coup, il y a un Dali qui est joué par plein d'acteurs avec Dupieux, là, en préparation.
Ouais.
Tu maîtrisais déjà le perso.
Je maîtrisais le perso. Non, mais c'est... moi, j'ai curieux de le voir, en tout cas, ce film. Non, mais Belaï, je me souviens qu'il nous coachait sur les répétitions de braquage, par exemple. C'était assez marrant. On avait un consultant braquage, donc on
film,
répétait avec Grégory Gadebois... avec Samy Bojila et tous les scènes de braquage. Puis lui, il était là, il nous montrait comment faire. Et dès qu'il touchait parce qu'on avait des flingues, évidemment, déchargées, démilitarisées, tu vois. Et dès qu'il touchait un flingue, il tremblait, il allait fumer une clope. Il disait, c'est... il était comme ça. Et, oui, c'est... Faut que j'aille prendre l'air.
C'était la première fois que t'avais un flingue dans un film.
Donc je voyais cette addiction comme ça. J'observais. Je me dis putain, c'est fou ce rapport à la violence et aux armes, quoi. Rien que le fait de nous faire répéter une scène de braquage, ça l'excitait, quoi. Je dis mais c'est fou cette. Il me dit ah non c'est. Il me dit c'est trop bon, quoi. Enfin, c'est trop bon, quoi. Ça m'avait assez choqué.
Écoute, tu sais braquer de banque, par contre.
Je sais m'adresser à un banquier, disons.
Pas mal.
C'est l'interview de Toé Denakage, donc on est obligé de mentionner le film tellement proche de ce même réalisateur, en 2009.
Ouais.
Alors, du coup... T'étais sur une bonne lancée avec l'anecdote du braqueur, là.
Ouais, oui.
Continue sur cette lancée.
Oui. Non, mais je... Putain, c'est difficile, ce genre de... J'arrive jamais à faire le tri, non.
En 2011, tu joues dans un film.
Non, mais j'ai adoré, moi, travailler avec eux. J'ai plein d'anecdotes. Bon, oui, ils vous parlent pendant les prises, ils te parlent, ils t'envoient des dialogues que tu attrapes au vol. Voilà, c'est une manière de travailler particulière. Bon,
Là, sur le prochain, tu as forcément des anecdotes parce qu'en 2011,
oui.
Tu joues dans un film qui, j'imagine, t'a demandé une préparation différente de ceux cités juste avant, à savoir L'Assaut de Julien Leclerc qui revient sur la prise d'otage d'un vol Air France en 1994.
Ouais.
Là, pour le coup, la préparation, elle devait être.
Ouais, on a passé plein de temps avec le JEGN. J'arrive pas à prononcer.
Voilà, le fiasco est total.
Avec le GIGN. Oui, c'était très, très, très intéressant comme préparation. C'était dingue. Oui, non, c'était. Bah non, mais on a fait plein de trucs.
C'est quoi le truc le plus éprouvant dans la préparation? avec le GIGN?
On avait fait un stage, on a fait quelques stages dans leur base d'entraînement, là, dans des réveils intempestifs en pleine nuit pour aller faire des. Pour aller ramper sous des buildings, sous des immeubles délabrés, par exemple. Mais il n'y a rien qui était difficile, en fait. C'était que. Enfin. C'est que nous, les acteurs, on fait ça pour jouer. On fait ça pour s'amuser, en fait. Même si on le fait sérieusement, voilà. Donc, je vais pas aller dire, ouais, on s'est entraîné avec le GIGN. Ouais. Nous, on le fait pour s'amuser. Donc, même quand ils te demandent de grimper à 15 mètres de haut ou de rentrer dans un sous-sol, enfin, c'est un jeu pour nous, les acteurs. Même si il faut qu'on s'approprie un personnage, il y a un truc qui est quand même, au départ, qui a un rapport au jeu de manière ludique, en fait. Même si c'est pour faire des choses super tragiques ou des grandes émotions. Donc ce que j'ai approché avec le GIGN, je peux pas dire que j'ai fait un stage du GIGN, c'est pas vrai, parce qu'un vrai stage du GIGN,
oui, j'imagine,
non, tu dégages en 3 minutes. Voilà, mais ils nous ont fait vivre des émotions, des sensations, essayer d'approcher leur métier en faisant des trucs physiques un peu durs, voilà, pour nous faire comprendre ce que c'est. Mais je t'avoue que je comprends pas toujours. Il y a toujours quelque chose qui m'échappe dans ce choix de vie-là.
Ouais. Bah, peut-être l'adrénaline, encore une fois.
Ouais, mais d'aller au feu comme ça. Pour dans le but de protéger, évidemment, les plus faibles, c'est les valeurs qui défendent. Il y a quand même quelque chose de particulier dans le fait d'avoir une famille, des enfants, et puis d'aller se mettre en danger à ce point-là, physiquement. C'est un drôle de truc, je trouve.
Super
anecdote.
Non, mais bien sûr, ça a mis une petite ambiance. Ouais, ouais. Et enfin, je termine avec ton dernier film en date, Le Livre des Solutions, réalisé par Michel Gondry. Film toujours en salle. Donc là, j'imagine que les anecdotes sont là, elles sont bien présentes dans ton esprit. Elles sont bien fraîches.
J'ai adoré le regarder travailler. Michel, il est étonnant, il est fascinant, quoi. Il a un profil particulier, on le voit bien dans le Livre des Solutions. Il parle de sa bipolarité, de cette maladie qui à la fois est un empêchement et un moteur, parce qu'il a un milliard d'idées à la fois dans ce moment-là de sa vie. Je le regardais travailler. Il y a un truc que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un mec, il a fait 150 clips vidéo, il a fait des films très compliqués à faire techniquement. Et à aucun moment sur le tournage, on a l'impression qu'il sait tout sur la technique. Alors qu'en fait, il sait tout sur la technique, je veux dire, c'est quelqu'un... Et il fait ça comme s'il bricolait un truc, comme s'il savait pas, comme si... Je sais pas, comme s'il bricolait ça de manière presque amateur.
Alors qu'il y a une grande maîtrise.
Ah ouais, alors qu'il a des connaissances énormes. Ça m'a étonné ce rapport à la fabrication d'un film de manière presque. Ouais, presque bricolé. Presque. Je sais pas, je crois qu'il aime bien ce côté. On a l'impression que c'est fait un peu comme ça.
Artisanal, un peu.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est étonnant de la part de quelqu'un qui a autant de maîtrise, quoi.
Ouais. Ouais.
Est-ce que dans tes rêves les plus fous, il y a des réalisateurs comme ça que tu as en tête où toi, tu te dis, j'aimerais trop jouer sous la direction de ces réalisateurs-là, quoi. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui te fascinent plus que d'autres?
Ouais, il y en a plein.
Parce que là, tu as quand même, depuis tout à l'heure, tu me dis, il y a eu Malkovich que tu as dirigé. Gondry, toi et Donanakia, c'est quand même des grands réalisateurs.
J'aimerais bien faire un film avec Gondry, par exemple.
Ouais.
Ouais, là, j'ai fait 5 jours sur son plateau. J'ai pas quitté le plateau, honnêtement. Je restais tout le temps là, à regarder. J'ai vraiment aimé... avec Salvadori aussi, Pierre Salvadori, j'aimerais bien.
Ouais. Gondry, c'est un réalisateur qui te fascinait avant d'avoir joué dans le Livre des Solutions.
Ouais, j'aimais ses films.
Ouais.
Mais j'avais aucune une espèce d'idée que un jour je travaillais avec lui. Ça me paraissait un peu hors de ma portée, quoi.
Comment ça s'est fait, d'ailleurs?
Il m'a envoyé un mail.
Ok.
Si j'avais su, je l'aurais écrit il y a 10 ans. Il m'a envoyé un mail, voilà, en disant qu'en fait, il connaît mon travail, qu'il me proposait ce petit rôle, etc. quoi. Et on s'est rencontrés. Et je... j'aimerais bien retravailler avec lui, ouais, vraiment. Ouais,
très bien. Ouais. Merci pour toutes ces anecdotes. On s'est régalé à les entendre. Et en plus, ça va encore plus te régaler parce qu'il y a encore un quiz, je crois. C'est le dessert. C'est pour dessert.
Je suis désolé. Je m'excuse même auprès des auditeurs. Quoi.
Alors, c'est... Guillaume Tutsi nous présente. Ah, oui. Après, tu as fini sur Shyamalan tout à l'heure, donc tu as un peu gagné le quiz.
Ouais. Ah, oui.
Tutsi nous présente un homme déguisé en femme et c'est plutôt une récurrence dans le cinéma, ce qui fait que tu nous as préparé un petit quiz pour le grand plaisir de Vincent.
Exactement, c'est un quiz pour le grand plaisir de Vincent. Ouais. Je vais vous citer des films et Vincent, tu vas me devoir donner d'accord. une anecdote à chaque fois. Ouais. Pas du tout. L'enfer. Un podcast qui s'appelle désormais Le Naufrage. Alors, je vous donne un pitch de film. Voilà, juste, il va falloir deviner de quel film on parle. Okay. Et voilà, et on compte les points, bien sûr, évidemment. Vous le savez.
C'est quel film ? C'est quel type de film ? Attends, j'ai pas compris.
Non,
c'est
des acteurs déguisés
qui
en
qui sont travestis.
Ah, ok, ouais. Pardon.
Les gens qui sont travestis au cinéma.
Pas de problème.
Voilà, c'est parti.
Oui.
À l'âge de 35 ans, un professeur.
Donc, on doit trouver l'acteur, pardon, Guillaume.
Non, on doit trouver le film.
Le film, pardon, d'accord.
Ah oui. Et je compte les points. Vincent, je compte sur toi. À l'âge de 35 ans, un professeur de littérature au Cégep de Montréal annonce à sa conjointe qu'il souhaite maintenant vivre sa vie comme la femme qu'il a toujours été. Cette dernière accepte difficilement.
Ah, Laurence Anyways.
Oui, oui.
Voilà. Melville Poupeau.
Bravo, Melville Poupeau, okay, Laurence Anyways, Xavier Dolan, 2012. Ouais. Un super, point pour JB.
Super film.
Un point pour JB. Après, il y en a qui vont aller très vite. Vous vous en doutez, parce que vous en avez déjà en tête.
Oui.
Ok. Deuxième point. Un doubleur de dessin animé au chômage.
Allez, madame. Allez,
ouais, ça allait très vite.
Merci.
Un doubleur de dessin animé au chômage.
Ouais, ça commence comme
ça. Avec ça, c'est déjà.
Avec ça, tu fais bon, allez.
T'aimes pas les quiz, mais ça marque des points quand même. Un petit
Ils
peu.
Sont bons sur les pitchs, putain.
Ah ouais. Alors, il n'a aucune autorité sur ses trois enfants. Après 14 années de vie commune, son épouse Miranda, une décoratrice ambitieuse, demande le divorce et obtient la garde des petits. Afin de continuer à les voir, Daniel se fait passer pour une respectable gouvernante irlandaise et entre au service de son ex-femme, Chris Columbus, en 1994. Évidemment, Madame Doubtfire par Robin Williams. Alors, ah oui. Donc 1-1, 0 pour Nemo. Bon alors.
Ouais, c'est ce que je te dis.
Antoine et Monique survivent difficilement, petitement, jusqu'au jour où le tonitruant Bob surgit dans leur vie et les entraîne à sa suite dans une série de
cambriolages. Putain de film, tenue de soirée.
Tenue de soirée, deuxième point. Voilà.
Ok, merci. Très bien.
Bravo, Bernard Blier en 1986.
Il est chaud, là.
Gérard Depardieu et Michel Blanc. 2-1-0. Bon là, ça va aller. Ouais, bon.
Putain de film.
Il y en a où je me dis, c'est absurde. Ça va aller très vite, soyez prêts. Ok, c'est parti. Le soir de Noël, dans un petit appartement qui leur sert de local, Pierre et Thérèse.
Une ordure.
Merci. Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de SOS Détresse Amitié, évidemment. Jean-Marie Poiré en 1992, le Père Noël est une ordure. Christian Clavier dans le rôle de Katia. Bravo.
Eh oui, Katia.
Donc ça fait 2-1-1. Bravo. Alors là, celui-là, oula, oui. Ah tiens.
Oula. Oui.
Un jeune maghrébin débarque à Paris. Il est recueilli par le père.
Chouchou.
Ouh, qui a dit chouchou.
Oh, allez, ça revient. 2-2-1. Ah, il est chaud.
2-2-1, c'est magnifique, ça. Bravo.
Le film préféré de Sarah.
Exactement, ouais, on en a parlé la dernière fois. À Clichy, il retrouve
très sous-coûté, ce film.
Il est devenu Vanessa, chanteuse romantique à l'Apocalypse, un cabaret de travesti. Chouchou se sent dans son élément, car lui aussi se travestit à 16h. C'est là qu'il rencontre Stanislas Chouchou, un film de 2003, réalisé par Merzak Alouache. Ok.
C'est génial, ce film.
Ouais. Moi, je m'en souviens pas des masses.
Je l'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu à l'époque, mais je me rappelle plus de ouf.
En tout cas, je crois que c'est mieux que Coco.
Ouais, mais il y a des fulgurances dans Coco quand même. Il y a des certaines scènes qui sont assez dingues. Mais Chouchou, oui, c'était assez, c'est magistral, quoi. Parce que c'est un personnage qui existe, quoi.
Est-ce que ce sont deux persos qui sont issus de ces spectacles ?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, exactement. Du premier, je crois bien.
Et le passage du spectacle au cinéma n'est pas évident pour les,
c'est vrai.
Pour
c'est
les mecs qui font du one-man show comme ça. Avec Chouchou, il avait réussi ça. Super.
Il faudrait que je le revoie, effectivement.
Ouais. Et il y avait Rojdi aussi qui jouait un prêtre.
J'ai jamais vu.
C'était très drôle. Il est très drôle, Rojdi. Rojdi Zem, c'est un acteur comique, lui. Au fond de lui, là, il a quelque chose de comique.
Rojdi Zem, j'avais adoré son speech. Je crois que c'était il y a 3 ans, un truc comme ça, quand il a reçu le César. Il avait fait un speech sur les acteurs
très
que j'avais trouvé très cool.
Sur et les en gros, coureurs de fond.
Exactement.
Très encourageant pour moi et tous les autres qui sommes là. Ouais, c'est vrai, non ?
Mais
c'est
il avait dit, pour resituer, il avait dit en gros, l'important, c'est pas d'arriver vite, c'est vraiment c'est un marathon en fait. C'est-à-dire que tu cours pendant longtemps, puis un jour, t'as 50, 60 ans, puis t'as un César. Ouais. Et surtout, il avait dit un truc que je trouvais intéressant, faut pas se comparer à ceux qui courent vite à côté,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
Et j'avais trouvé ça super, son speech. Oui.
Très bien, vous voulez reprendre le jeu ?
Oui, bien sûr.
Avec plaisir. Plaisir.
Ok. Et je suis meilleur dans les petites digressions comme ça.
Ouais, ah,
bien remarqué, voilà. Ça ou pas?
C'est ouais. Bien.
En fait, quand,
ouais.
En fait, quand on te met pas la pression. Moi, j'ai besoin de l'autre. Moi, j'ai besoin d'échanger avec l'autre. Si tu mets la pression, voilà. Si tu mets
un projecteur, si on met le projecteur,
j'arrive pas. J'ai l'impression que je suis chez les flics et qu'on.
J'aurais dû faire un interview digression.
Tu sais que. Tu vois, c'est horrible.
On se disait ça la dernière fois. Que parfois, il y a des sujets qu'on connaît. Par exemple, notre album préféré. Et si on nous. C'est à ce qu'on nous dit, c'est quoi ta chanson préférée sur l'album? T'es là.
T'arrives pas à
essayer. T'as pas le nom. Alors que tu connais par cœur et tu l'écoutes tout le temps. Fait que tout le monde pareil. Alors, Mario Crane, on est assez de ne pas pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est trop grande. Et Mario s'enfuit avec
psychose.
L'argent. Psychose.
Ah, bien joué. Il était parti de zéro, il revient à 3.
1960.
Ouais.
3,
ah,
2,
Hitchcock,
1.
Et tu vois que...
Putain, bien joué.
Magnifique. Je voyais le noir et blanc, je voyais le plan, ouais. Et j'arrivais pas à remettre dans le film. Tu sais, je...
C'est les 40 balles, là, ça, c'est... j'ai fait ah, ok.
Ouais.
Et
40 000 balles, parce que sinon c'est pas le même film.
Vous l'avez vu ce même où, genre, tu sais, ils disent... Qu'est-ce qui serait passé dans le film si juste elle avait emmené l'argent à la banque? Et tu sais, en fait, il y aurait juste marqué fin.
Oui.
C'est fini qu'en fait, il n'y a clair. Pas d'histoire.
Est-ce que vous aviez aimé la version de Gus Van Sant, le remake, si vous l'avez vu Psycho.
Non, c'est quoi, c'est quoi?
Bah, Gus Van Sant avait fait le remake de Psycho en 97-98, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Comment le film?
Et c'est plan par plan, c'est en couleur, c'est plan par plan, c'est Psycho, mais.
Psycho en plan, j'ai pas vu.
Réalisé par Gus Van Sant. Ah. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal, moi.
Il a refait exactement le même film, mais ouais, en couleur.
Mais quel intérêt
à l'actuel.
D'accord.
Bah, parfois, il y a des gens. Bah, ouais. En plus, surtout, s'attaquer à un plan, classique comme ça. Bah, regarde, par exemple, Funny Games, ça a été refait plan par plan pour les États-Unis, tu vois.
Oui.
Même là, si Psycho, c'est déjà...
Ouais. Funny Games, c'était dingue.
Ouais,
incroyable. Ah, ouais. Quel film.
Et non, mais Gus Van Sant, je me souviens d'une influence. J'étais dans les cours de théâtre, moi. Dans les premiers films de Gus Van Sant, on était au cours de théâtre.
T'es bon en digression, toi, quand même.
Et, My Own Private Idaho.
Oui. Ah ouais.
L'impact magnifique. Qu'avaient eu ces acteurs sur moi, je me souviens.
Ah ouais.
River Phoenix.
Ouais, River Phoenix.
C'est Keanu
Reeves.
C'est Keanu Reeves.
On l'oublie, mais avec Keanu Reeves.
Ouais, super film. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un des films qui a... fait beaucoup de mal à River Phoenix parce qu'il s'était tellement imprégné du personnage. Ah. Il joue le rôle d'un personnage qui est complètement drogué dans ce film-là. Et en fait, il expliquait qu'il avait eu beaucoup de mal à sortir de ce perso, en fait.
Ouais. Donc, ouais. Mais bon, lui, ils ont une famille particulière. Je crois qu'ils ont une histoire...
Ouais, ils ont vécu dans une secte un
ouais,
peu.
C'est ça.
Enfin,
c'est
un truc un peu bizarre, alors, étrange.
Ouais. En fait, je ne peux pas m'en empêcher, mais je me permets une question, Vincent, qui va faire appel à tes souvenirs. Mais je peux pas m'en empêcher.
Autant que c'est des souvenirs, ça va, des anecdotes. C'est oui.
Non, mais est-ce
c'est
qu'il y a
des souvenirs romancés qu'il faut écrire c'est de l'écriture instantanée, bien cérébrale, sûr. C'est un peu compliqué.
Non, mais est-ce qu'il y a un rôle comme ça dans ta carrière qui t'a accompagné un peu, même après le tournage, genre t'avais du mal un peu à sortir de ce perso?
Non, j'ai pas de problème.
Ça t'est jamais arrivé, ça?
Non.
Non,
non, si, le seul truc. Non, mais c'est vraiment anodin. Non, mais c'est pas très intéressant à raconter.
J'ai envie de savoir.
C'est parce que dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps dans le 95 chez les gens du voyage pour un rôle dans une série qui s'appelle BRI. À force de parler comme eux, j'ai gardé ce truc-là pendant quelques temps. Après, à la maison, ça a saoulé ma femme. mais je faisais pas exprès, quoi. C'était pas du tout pour préparer le rôle. C'est-à-dire que pour la prépa du rôle, j'avais pas ce problème-là. C'est à la fin du tournage, j'avais tellement pris le coup de la façon de parler que quand je m'énervais sur les gosses, je leur mettais des coups de pression. Comme si. mais j'ai passé beaucoup de temps. C'est dans le 95, voilà. Donc au bout d'un moment, c'est comme une éponge. Mais non, par contre, j'ai pas de sortir des rôles, rentrer, sortir, il n'y a aucun problème. Non, pas
du tout. Ok, très bien. Ouais. Guillaume.
Eh bien, très bien, bravo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Non, ça faisait rire, le truc de... Ouais, j'ai passé beaucoup de temps dans le 95, après je me prenais pour un mec du 95 et tout.
Ouais, c'est ça.
Quoi? Pas du tout. J'arrivais pas du tout à sortir de ça, j'étais genre... Trop bizarre.
J'allais acheter mon pain, bah chez moi, j'ai mis des pressions à la boulangère.
Trop bizarre.
Le 95, en fait.
Trop bizarre. Alors, attends, mais combien, c'est quoi le score?
Bah, c'est 3-2-1.
Ouais, c'est toujours Nemo qui gagne ce jeu, de toute façon.
Oh.
Bah oui. Une nuit d'orage, la voiture de Jeannette et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligé de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences.
Hein, un peu plus technique.
C'est quoi ce truc?
Oula. Film de 1975.
Ah!
Je l'ai pas.
C'est
Tim Curry qui se travestit.
Ah si, c'est Rocky Horror.
Oui.
Ah, Rocky Horror, Show, bien joué.
Bien sûr.
Donc deux points pour toi, bravo.
T'avais déjà été voir ce film au Cinoche Saint-Michel.
À ce qui paraît, c'est toute une expérience.
Ouais, c'est une fois ça. Ouais. Ouais, c'est fou.
Ouais, c'est bien.
C'est bien.
Ouais, c'est super, mais c'est fou. Tu peux pas voir le film, bon, mais ouais. Le ah spectacle ouais est dans la salle. Quoi. Ouais.
Ah. Et donc on a combien? Deux.
Trois de deux.
Trois de deux. On a qu'à se dire qu'on sait le dernier et celui qui gagne, il gagne.
D'accord, très bien.
C'est bon pour vous.
Ouais.
Alexander S, d'origine autrichienne, a consacré sa vie à la recherche. Dans un laboratoire de biotechnologie, il met la dernière main à un médicament révolutionnaire. L'expectane, offrant aux femmes des grossesses sans risque. Son associé
Junior.
Oh
ah,
Junior, qui veut changer des guerres, se travestir. Ouais. Magnifique. Ivan Reitman en 1994. C'est un jeu remporté par JB pour aucune raison.
J'ai eu trois réponses quand même.
Ah oui, trois réponses. Bah, bah alors, bravo.
Non, je bravo, Jean-Baptiste. Tu vas pas respecter du tout. Alors, Vincent, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce qu'en général, dans ta vie de tous les jours, tu raffoles des anecdotes croustillantes liées à tes films préférés?
Oui. J'adore qu'on me les raconte.
D'accord. Et bah, écoute, tu vas te régaler parce que j'en ai plein sur Tootsie.
Ouais.
J'espère allez t'apprendre des trucs sur Tootsie. Alors, pour commencer, figurez-vous que Tootsie était le nom du chien de la mère de Dustin Hoffman. Le nom du film vient de là. À la base, il devait s'appeler Would I Lie to You. Mais c'est Tootsie. Il a dit Tootsie, c'était le nom du chien de ma mère. Pourquoi pas? Il s'est dit pourquoi pas.
Il y a un problème avec les chiens, c'est comme Indiana Jones, quoi.
Bah écoute. Dustin Hoffman voulait Bill Murray, mais pas Pollack. En fait, Dustin Hoffman était là, genre Bill Murray, il serait super dans le rôle. Sauf que Sidney Pollack ne voulait pas, parce qu'à cette époque, Bill Murray venait du SNL, il avait déjà joué dans Caddyshack, et en fait, il y avait tout un délire autour de Bill Murray, et lui, il se disait, si Bill Murray, il nous rejoint dans le casting, les gens vont se dire, c'est un film à la Bill Murray, et ça va un peu flopper, ouais, tu vois. Et du coup, Dustin Hoffman l'a convaincu de prendre Bill Murray, mais à la base, c'était pas gagné.
Il est marrant le rôle de Bill Murray d'ailleurs dans le film, je trouve.
Bill Murray est super.
Alors, figure-toi que c'était pratiquement à 90% que de l'impro dans le film. Ah Bill Murray, ouais.
Ça se voit que c'est que des petites discussions, des petits trucs. Le rythme, ouais, il est marrant dans les scènes, je trouve.
Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Lorsque des mauvaises nouvelles devaient être annoncées à Dustin Hoffman sur le plateau, le crew préférait les lui annoncer lorsqu'il était déguisé en femme. Il était apparemment plus doux et sympa dans ces moments-là.
Barge.
Figurez-vous que la première fois que Dustin Hoffman s'est grimé en femme, et d'ailleurs ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure Vincent, premier jour de tournage, il est rentré chez lui et a fondu en larmes, expliquant à sa femme qu'il venait de réaliser à quel point le sexisme était une réalité douloureuse. Donc tu vois, tout à l'heure tu disais qu'en interview il avait presque fondu en larmes, il l'a vraiment fait chez lui quand il est rentré après le premier jour de tournage. La plus grande difficulté pour Dustin Hoffman n'était pas de se déguiser, mais de trouver un timbre de voix féminin. Eh bien, savez-vous qu'il a coaché pendant des semaines, ni plus ni moins que son amie Meryl Streep, avec qui il avait tourné dans Kramer contre Kramer. Ah, c'est elle qui l'a coaché pour son rôle.
Alors que sur Kramer, ça s'était pas super bien passé entre eux.
Ouais, bah écoute, après, donc, ça s'est bien arrangé. Ouais. Ça te régale ces petites infos
J'aime bien.
Ouais, t'es bien. alors, on pourrait se dire, quand on voit Tootsie, c'est grillé que c'est un homme. Eh bien, pas tant que ça, car Dustin Hoffman a testé hors tournage l'efficacité de son déguisement dans la vraie vie, et en particulier à une réunion parents-prof à l'école. Les gens n'y ont vu que du feu.
Il s'est fait passer pour... grillé, hein, franchement. Il a un visage féminin hein, quand il met la perruque.
Oui, mais en fait, ce que je me disais dans le film hier, c'est que en vrai, si tu te déguises en femme, comme Tootsie, le moment, je te dis, c'est toi, Guillaume, qu'est-ce que tu me fais? Tu vois? Je vois que c'est toi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Si, bah si.
Si. Par exemple, Vincent. Il va falloir le tester. Hein.
Vincent, quand tu t'es déguisé en femme à Taboum, est-ce que tes potes t'ont quand même reconnu?
Ouais.
Oui, quand même.
Tu vois. Ouais, non, c'est dans la rue sur le trajet que j'ai eu des soucis.
Oui, voilà. Ouais. Là, c'est différent. Mais donc, ça, en fait, il y allait à la réunion parents-prof et tout le monde s'est dit, bah ok, c'est la tante de l'élève.
Mais quand je suis arrivé à la Boum, je me suis fait traiter de PD, d'homo, des propos hyper durs, tu vois. Et les mecs étaient hyper durs avec moi, mais j'en avais rien à foutre, moi, en fait, parce que j'assumais tellement le choix. J'étais tellement content de moi sur le résultat du truc. Et les filles, par contre, elles adoraient.
OK.
La tenue. Et la mère, je devrais pas le dire, la mère, elle matait mes jambes.
Que t'avais rasé ou
15 piges. J'avais pas besoin à l'époque, j'étais...
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et les mecs, ils étaient vachement virulents, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était vachement dur.
Ouais, j'imagine.
C'était ça perturbé, quoi, tu vois.
Ça touche ça, à leur sexualité.
ouais.
Alors, je reviens là-dessus, mais Bill Murray a mis son ego de côté car il a accepté que son nom n'apparaisse pas dans le générique de début afin que les gens ne se disent pas « Ah, ça va être un film à la Bill Murray ». Donc, il y avait vraiment un truc autour de ça, quoi.
C'est fou, ça.
Figurez-vous que tous les costumes de Tootsie ont été conçus de telle façon qu'on ne voit jamais la glotte de Dustin Hoffman.
Ah, ouais.
Donc à chaque fois, il a des espèces de cols comme ça.
Ouais. Ah, c'est vrai.
Parce qu'apparemment, Dustin Hoffman a une glotte immense. Et effectivement, j'ai tapé glotte Dustin Hoffman. J'étais le seul à taper ça sur Google aujourd'hui. Glotte Dustin Hoffman. Et effectivement, la glotte est immense. Ouais. C'est l'info que je vous donne. Vous vous souvenez de la façon dont le perso de Michael Dorsey se fait virer après chaque audition au début du film?
Ouais.
Eh bien, c'est une proposition de Dustin Hoffman qui se faisait virer comme ça à ses débuts lorsqu'il aspirait à devenir acteur. C'est-à-dire qu'il était exactement comme ça. Il était là, genre, mais pourquoi vous avez écrit ça comme ça? Et en fait, il était méga chiant qui mettait en scène. Et en fait, c'est vraiment lui. C'est lui qui a proposé ça à Pollack, en fait, au début.
D'ailleurs, c'est assez méta comme film, parce qu'au final, il se retrouve à jouer un acteur qui est plus ou moins lui, qui va jouer une femme.
Oui, voilà.
Ça pourrait être lui, c'est un peu bizarre.
Ouais, exactement.
Et enfin, la meilleure anecdote pour la fin. Est-ce que vous connaissez un acteur qui s'appelle José Ferrer? Ça vous parle ou pas? José Ferrer, c'était un grand acteur des années 40-50 aux États-Unis. Il a fait des rôles comme Cyrano de Bergerac, très respecté aux États-Unis. Tootsie se tourne, Dustin Hoffman prend l'ascenseur, il est grimé en Tootsie. Et là, il tombe sur José Ferrer, qui est vraiment un acteur très respectable. Et là, il commence à lui dire « Je suis un grand fan de vous, monsieur Ferrer ». Il joue son personnage de Tootsie. Et lui, il est un peu flatté et tout. Et d'un coup, Dustin Hoffman le regarde et lui fait « Ça te dirait que je te suce la bite dans l'ascenseur, là, comme ça ?» Oui, non, mais il lui dit ça, tu vois. Et Ferrer, il est complètement désarçonné, puis il bloque et tout, puis il dit bah non, pas du tout, arrêtez, et tout machin. Et là, il sort, puis il dit à son assistant, mais c'est quoi cette meuf là? Et bon, bref. Et en fait, un an plus tard, à une soirée de charité, il y a Dustin Hoffman, méga star, qui arrive vers José Ferrer et qui fait, tu te souviens d'une meuf qui avait voulu te sucer dans l'ascenseur et tout? Et lui, il fait, bah oui, je me souviens très bien de ça, et bah c'était moi, tu vois. Et c'est terminé comme ça et tout. Et genre, j'adore cette anecdote, c'est trop marrant. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour toi, Vincent, le dernier film que tu as vu au cinéma?
La Bonne Année, de Claude Lelouch avec Lino Ventura. Et
ah, donc il ressortait dans une salle parisienne alors.
Ouais, au Festival de Valenciennes, il y avait une hommage à Lelouch, okay. Et je l'ai jamais vu, je l'ai vu 25, 30 fois, 40 fois, je sais pas combien de fois, et je l'ai jamais vu sur grand écran.
Trop bien.
Et là, j'ai eu un choc. Là, sur grand écran, c'est extraordinaire.
Ouais.
C'est justement, un immense film.
Justement,
c'est un chef-d'œuvre, quoi.
Ouais, mais voilà, on en parlait en DM et je te disais que.
Et je savais pas. Ouais.
Ouais. J'ai lu récemment que c'était le film préféré de Stanley Kubrick. Ça, c'est incroyable.
Fait partie de ses 10 films préférés.
Ouais, C'est fou, quand même.
En même temps, il est fou ce film.
Ça donne bien envie de le voir. Le dernier film que tu as vu via une plateforme.
Qu'est-ce que j'ai vu en film là dernièrement sur une plateforme? Bah non, en fait, pas grand-chose en plateforme là.
Ouais. Bah attends, je vais te poser la question sur les séries, parce que peut-être que tu regardes une série.
Ouais.
La dernière série que tu as regardée?
Snowfall.
Snowfall.
Voilà, j'ai retrouvé. Génial.
Ça parle de quoi?
Ça parle de comment la CIA a fait rentrer la coke sur le territoire américain dans les années 70 pour alimenter la guérilla en Amérique latine contre les communistes. Et donc, ils soutenaient des guérillos là-bas sur place pour lutter contre le communisme. Et pour alimenter, pour financer le trafic d'armes, etc., ils leur achetaient de la coke. Enfin, et donc, ils ont fait rentrer la coke sur le sol américain. Et ils ont cherché des dealers pour dealer la coke, en fait. Et ils sont allés, évidemment, chez les pauvres, donc chez les Noirs américains de Los Angeles, notamment. Et ils ont commencé à vendre de la coke... très facilement comme ça, des grosses quantités à des dealers. Et puis les dealers ont fini par inventer une nouvelle cam à base de la coke, le crack. Et ça a complètement tué tué la population, en fait. D'abord noir, et puis après les blancs aussi, enfin tout le monde. Et c'est une super série. Et le sujet, il est un peu dur comme ça, mais... c'est très funky, quoi. Ça se passe dans les années 70-80, la bande-son, elle est dingue, ça passe à Los Angeles, et c'est un jeune dealer qui va monter en
puissance,
en puissance, quoi, grâce à ça, grâce à la CIA.
La dernière chanson que t'as écoutée?
C'est Jul, La Faille de Jul, parce que c'est mon fils qui écoute ça.
Je peux même plus faire les boutiques, je m'en aille sous les tropiques. Jamais je montrais ma vie. J'fais gaffe, maintenant ça va vite.
dis-moi qui veut me faire. J'ai pas d'AK, pas de revolver. Et quand je me déplace, ils me prennent la sécu comme si j'étais le maire.
Le dernier livre que tu as lu,
Larry McMurtry, je n'ai pas fini encore, mais Lune Comanche, c'est un western.
Ah ouais.
Ok.
Je vais essayer de tout lire de ce mec, c'est un peu long.
Ouais, j'avoue. Moi, je suis sur Lonesome Dove, j'en suis toujours qu'au premier bouquin.
Ah, Lonesome Dove, ça te plaît?
Ouais, je kiffe.
Ouais, c'est un de mes bouquins préférés.
Ah ouais, c'est légendaire.
Le dernier objet culturel que tu as acheté, ça peut être un CD, un livre, un vinyle, un film.
Putain. Un t-shirt de Wu-Tang.
Ah, que tu portes là ouais. pendant qu'on tourne.
Est-ce que c'est un objet culturel?
Bien sûr.
Bah oui. C'est pas du merchandising.
Alors,
culturel.
Aurélien, que tu as à côté de toi, est le chef musique de Combini, spécialisé dans le rap.
C'est vrai.
Waouh.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Wu-Tang? Une bonne anecdote.
Alors. Je sais pas.
C'est horrible. T'as vu ou pas?
J'ai envie de le tester. Hein, sur le Wu-Tang.
Plein d'anecdotes. Qu'est-ce que tu
réponds
que
dises vite. Vite, parce qu'il y a un timing à respecter.
Réponds, sois drôle, brillant.
Ah, il a un truc
brillant, drôle.
Dans quelques jours, on va fêter les 30 ans de Hunter de Wu-Tang, un album charnière du rap américain, dans lequel c'était la première fois qu'il y avait un groupe qui ressortait d'un nouveau quartier de New York, Staten Island, avec 9 rappeurs. Un truc qui était impossible à imaginer avant qu'eux décident de le faire.
Bravo, Aurélien.
Oh, et
beaucoup de films.
Et Cypress Hill, c'était même période ou pas?
C'était un tout petit peu avant. Eux, en fait, ils ont signé leur premier album en 91.
D'accord, parce qu'ils sont nombreux aussi, Cypress Hill.
Ouais, en fait, c'est à la base, ils sont 3-4.
Ah, pas plus.
Et il y a vraiment un rappeur principal, B-Real, et un producteur. Et après, il y a Sendog à côté. Mais en fait, le groupe en soi, ils sont... Ouais, 3-4, c'est un collectif un peu plus...
Moi, je les avais jamais vus sur scène. Je les ai vus l'année dernière, là.
C'est toujours efficace.
Bah, ils ont 50 piges, les mecs.
Ouais.
Et ils étaient tous là, ce soir-là. Enfin, vraiment tous présents.
Ouais, maintenant, ils tournent... En plus, là, il y a justement, en ce moment, cet été, suite à la tournée de Réunion, ils ont fait une vidéo Tiny Desk, là, de chez NPR, un petit concert, en fait, dans les bureaux, avec un groupe, etc., okay. Où ils reprennent leurs classiques. Okay. Et on voit, justement, que ça a été tourné cette année, qu'ils sont encore... Enfin, ils ont plein de choses à raconter, c'est vraiment culturellement hyper intéressant.
Scène, ils sont impressionnants.
Ouais.
T'as vu, finalement, j'ai lancé un bon petit truc, là, une discussion entre vous sur Cypress Hill. C'est bien.
Très bien, c'est possible.
Et enfin, le ou la dernière artiste que tu as suivi sur Insta.
Là, le dernier, c'est John Wan.
Ok.
Voilà.
C'est qui, John Wan?
C'est un graffeur. Je suis allé voir un truc hier soir, parce qu'il fait des tableaux maintenant.
Ouais.
Et le John Wan, il s'était fait connaître parce qu'il avait... D'abord, c'est un des premiers graffeurs. Enfin, il est au début du mouvement hip-hop, là, enfin, du graff aux États-Unis.
Ouais.
Et il mettait son nom partout dans le monde. En fait, lui, il a fait ça, mais partout dans le monde, en fait.
OK.
Ce qu'on m'a raconté, je ne le savais pas. Mais il était allé en Inde, partout, en Amérique latine, en Europe, à l'époque, dans les années 80, graffer son nom sur tous les murs du monde entier.
C'était son concept,
c'est ce qu'il a fait connaître.
C'est un peu comme, si vous habitez à Paris, vous avez tous vu cette photo d'un type là, qui s'appelle John Amon.
Ouais.
Vous voyez cette photo dans la rue?
Ouais.
C'est un mec avec des lunettes, on dirait un photomaton un peu.
Ouais.
Ça te parle cette photo, Vincent, ou pas?
Ouais, ça me dit quelque chose.
Et ouais. Personne ne sait qui c'est, en fait, ce gars, non? C'est ça?
Je sais qu'il y avait une enquête à un moment, ils avaient découvert que c'était une sorte de mecs dans une école de beaux-arts et que c'était des gens qui avaient repris sa photo pour la mettre partout pour en faire une sorte d'allégorie de la pub, tu vois.
Parce que maintenant justement. C'est devenu un peu un truc culte parisien, quoi.
Bah ouais, c'est devenu une sorte de le premier mème dans la rue parisien, tu vois, où genre tout le monde sait qui c'est mais en même temps personne sait qui c'est et on sait pas ce que ça promeut, tu vois.
Ouais.
C'était un peu pour se foutre de la gueule des campagnes de publicitaires autour de la politique et ces trucs comme ça. Et je crois que c'était juste une blague en fait. Il voulait juste se foutre de sa gueule et mettre sa photo partout.
Très bien. C'est désormais la fin de ce podcast. Vincent, merci beaucoup d'être passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois?
Pas grand-chose.
Ouais.
Ok. C'est intéressant. Non, j'ai fait 2 films qui vont sortir, mais pas avant février.
Tu peux en parler un petit peu ou pas?
Oui. Ah, oui, il y a un film qui s'appelle Vivant de Alix Delaporte avec Roche Dizem, Alice Izad, Pascal Arbillot. Pierre Notin, voilà, c'est un film sur le journalisme dans lequel je joue un reporter qui est énorme, c'est une réalisatrice avec qui je voulais tourner depuis des années, qui a fait que 2 films en 15 ans, quoi, qui s'appelait Angèle et Tony et le dernier coup de marteau. C'est une super réalisatrice qui jusqu'à présent tournait peu. Là. Je pense qu'elle va tourner plus, mais et donc j'étais très content de travailler avec elle. Et puis j'ai fait un film avec Caroline Vignal, qui est la réalisatrice qui avait fait Antoinette dans les Cévennes, avec Laure Calamy. Donc je connaissais pas cette actrice, j'avais jamais joué avec elle, je la connaissais par son travail. Et donc c'était cool de la rencontrer, de jouer avec elle.
Elle joue vraiment bien.
Là. Ouais, c'est une super
actrice. Forte.
Moi, ouais, j'avais découvert dans un film qui s'appelle Un monde sans femmes avec Vincent Macaigne.
Ouais.
Et elle m'avait vraiment bluffé à l'époque.
Ouais, elle est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, j'ai fait un truc pour France 2 aussi, un unitaire, un téléfilm, enfin un truc qui s'appelle Tout le monde ment, réalisé par Hakim Isker, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non.
En tout cas, écoute, je dois dire que tu nous as régalé d'anecdotes.
C'est un plaisir. Elle est pour moi, celle-là.
Moi, j'ai adoré que tu disais oui, 2009, oui, bon, bah, voilà,
oui,
2009.
C'est extraordinaire.
J'ai adoré, c'est ma préférée de toutes les anecdotes. J'ai adoré celle-là. Bah, écoute, bah, merci Vincent, c'était un vrai plaisir de t'avoir en plus en vrai premier degré sur ce podcast.
Ouais, merci pour l'invitation.
Et nous, bah, on se retrouve dans une semaine, les gars.
Okay. Avec plaisir.
Vous recevez qui dans une semaine?
On ne sait pas trop encore.
Ah, d'accord,
okay. On réfléchit, ouais. On ne sait pas, ça se fait comme ça.
Ok.
Voilà, on ne sait pas trop.
Pour l'instant, personne t'a dit oui.
Ouais, c'est surtout ça.
Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une semaine. Ciao tout le monde.
Avec plaisir.
Salut.
Salut.
Au revoir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.